France Info.
Le campagnol des prairies, ce petit rongeur tout mignon, eh bien on apprend aujourd'hui qu'il est capable d'empathie. Il ressent quelque chose pour l'autre donc. C'est ce que révèle une étude scientifique qui met en avant le rôle clé de l'acytocine, l'hormone de l'amour, comme chez les humains. Alors c'est l'occasion de s'interroger sur les émotions que vivent, que ressentent les animaux. Bonjour Caroline Gilbert.
Bonjour.
Chercheuse au Muséum d'Histoire Naturelle et maître de conférence en éthologie à l'École Vétérinaire d'Alfort. Alors sur les émotions, sur les mécanismes de pensée des animaux, les questions de Manon, Camille et Hochmann, ce sont des 6e classe média du Clémy au collège Roland d'Orgelès de Paris. Et au micro France Info d'Estelle Fort, c'est toi qui commences, Hochmann.
Est-ce que les animaux peuvent avoir un petit cerveau mais des émotions ?
En fait, la taille du cerveau dépend en partie de la taille de l'animal.
Et on peut pas mettre un grand cerveau dans une fourmi ?
Voilà, hein. Donc ça va en partie donc dépendre de la taille de l'animal, mais aussi de l'espèce de l'animal, donc des capacités mentales des animaux à pouvoir ressentir des émotions. Donc oui, des animaux ayant un petit cerveau peuvent ressentir des émotions. Par exemple, c'est le cas des rats et des souris qui ont un petit cerveau.
Est-ce qu'il y a des animaux qui pleurent ?
Si on parle de pleurer, c'est avoir des larmes qui coulent. Probablement non. Par contre, on sait que les animaux sont capables de ressentir des émotions de type tristesse ou des émotions négatives. Pleurer, c'est lié à l'humain et donc d'avoir des larmes qui coulent.
Camille.
Est-ce que les animaux tombent amoureux ?
Ah, vraie question de fille.
Les animaux, notamment les mammifères, sont très liés. On pourrait parler d'amitié. Nous, en éthologie, on parle de relations d'affinité. Et évidemment, entre un mâle et une femelle qui se rencontrent, il y a des parades sexuelles. Donc, il y a aussi un lien qui se crée.
Il y a un jeu de séduction.
Il y a de la séduction, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. À côté de ça, eh bien, il peut y avoir des vraies relations. Par exemple, il y a des oiseaux, les albatros, qui restent en couple toute leur vie. Donc bien évidemment, s'il y en a un qui décède, il va y avoir un manque pour l'autre partenaire du couple.
Hochmann.
Pourquoi les chats sont égoïstes ?
C'est vrai déjà ?
Alors je pense pas que ce soit vrai, je pense que c'est une perception de l'homme. C'est un peu cette vision d'indépendance du chat probablement qu'on a. Certains chats peuvent vivre en groupe. Si on met plein de nourriture à un endroit, ils peuvent se retrouver en groupe. Et il peut y avoir de la coopération entre les animaux. Donc, par exemple, les femelles peuvent donner du lait aux jeunes d'une autre femelle. Donc ça, c'est plutôt de la coopération et c'est pas du tout de l'égoïsme.
Manon.
On dit que les poissons rouges n'ont pas de mémoire, mais est-ce qu'ils arrivent à retenir des choses ?
Alors, de toute façon, n'importe quel animal, notamment les poissons ou les vertébrés, apprennent et modifient leur comportement parce qu'ils ont appris des choses. Donc ça, bien sûr, c'est pour s'adapter à leur environnement. Donc forcément qu'ils ont de la mémoire. Après, en fonction des animaux, les capacités de mémorisation et d'apprentissage sont différentes. Donc peut-être que si on teste des poissons et qu'on teste des grands singes, on va se rendre compte que les poissons mémorisent beaucoup moins vite et retiennent bien moins longtemps les mêmes choses. Donc ça, c'est lié aux capacités mentales, en fait.
La capacité de la mémoire, elle est liée à la taille du cerveau ou pas forcément ?
Pas forcément. Par exemple, chez les abeilles, la danse des abeilles, ça a été super bien décrit et c'est très complexe. Donc c'est pas forcément lié non plus uniquement à la taille du cerveau.
Camille.
Pourquoi les éléphants ont peur des souris ?
Est-ce que c'est vrai déjà ?
Alors là, pour ma part, je pense que c'est faux. C'est plutôt une image qu'on donne. Les éléphants ont assez peu de prédateurs. Donc il n'y a pas de raison qu'un éléphant ait peur d'une souris, puisque la souris n'est pas prédateur de l'éléphant.
Hochmann.
Est-ce que les fourmis ont une conscience ?
Alors là, conscience, c'est un concept complexe qui fait référence à la conscience de soi, à la conscience de l'autre. Chez les fourmis, ça a été, à ma connaissance, peu étudié. Les fourmis sont plutôt étudiées sur leur capacité à vivre en groupe et à échanger des informations. Ce sont des insectes, hein, donc effectivement, à capacité mentale assez peu développée. Donc la question reste ouverte.
Ben voilà, si tu deviens chercheur, Hochmann, c'est un bon mémoire de recherche, ça. Camille.
Quand on arrache une patte à un insecte, est-ce que ça leur fait mal ?
Non, mais déjà, il ne faut pas le faire.
Déjà, voilà, il ne faut pas le faire. Ceci étant, on sait que les animaux ont des récepteurs à la douleur. Donc ça, c'est juste évident qu'il y a un message qui arrive au niveau du cerveau de l'insecte. Si la patte est arrachée, donc il y a une information qui est transmise, c'est plutôt normal hein, que l'organisme se rende compte qu'il y a un membre qui manque un bout. Par exemple, sur les araignées, fréquemment, il arrive qu'elles perdent une patte et donc que cette patte-là se régénère. Donc probablement que le ressenti de douleur est extrêmement différent que pour nous humains ou pour des mammifères ou pour des oiseaux.
Manon.
Est-ce que les animaux ont parfois des envies suicidaires ?
Alors, a priori, ça a vraiment jamais été montré. Il y a une grande histoire qui a fait débat en écologie. C'était sur le suicide des lemmings. Alors, les lemmings, c'est des petits rongeurs qui vivent au nord de l'Europe. Et en fait, ils ont des variations de leur population très importantes. Donc, il y a beaucoup de lemmings à un moment donné. Et après, ils meurent tous. Et donc, on pensait qu'ils se suicidaient. Et en fait, on a montré que c'était lié aux prédateurs des lemmings. Donc, en fait, c'est fluctuation de population. Se suicider, ça veut dire aussi qu'on a conscience de soi, conscience de la mort, conscience de vouloir se donner la mort. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Et a priori, à part l'humain, il n'y a pas d'espèce animale qui serait suicidaire.
Hawkman.
Quand un animal se voit dans un miroir, est-ce qu'il sait que c'est lui ou il croit que c'est un autre animal ?
Le test du miroir, c'est un test utilisé en éthologie pour tester la conscience de soi. Donc ça a été fait par exemple chez des chimpanzés où on leur mettait une tache sur la tête et donc on observait ce qui se passait. Donc les chimpanzés sont capables d'avoir conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à s'enlever la tache
sur leur propre tête.
Donc les chimpanzés sont capables, les orang-outans aussi, les gorilles, les éléphants aussi, les corbeaux aussi, les perroquets aussi, mais par exemple le chien ne sont pas capables. Donc en fait, ça dépend de l'espèce d'animal et des capacités mentales.
Et chez les bébés humains, ça vient pas tout de suite.
Voilà, ça vient pas tout de suite.
Merci Caroline Gilbert du Muséum d'Histoire Naturelle et de l'École Vétérinaire d'Alfort en région parisienne.